Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission où nous allons parler de management, d'intelligence collective, de savoir-être. Et aujourd'hui, nous recevons Aurélie Le Guillou. Il y a quelques années, j'ai fait une journée d'initiation avec Aurélie à des techniques de communication. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai pensé à elle pour répondre à ses questions sur le management et notamment à comment améliorer la communication dans les équipes. Retrouvons-la tout de suite. Bonjour Aurélie.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur ce podcast. Nous allons parler aujourd'hui de comment dénouer les tensions en équipe, c'est bien ça ?
Oui.
Alors avant de nous lancer dans le sujet, est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens, qui tu es ?
Qui je suis ? Cette grande question, qui suis-je ? Celle à laquelle on veut tous répondre.
On va rester simple, juste ton parcours. Rien de métaphysique dans tout ça.
Alors, initialement, je suis plutôt une chef de projet dans le monde du web, dans le monde du e-commerce, très intéressée par tout ce qui est méthodologie agile, à la fois touchant à la gestion de projet, donc l'agilité dans la gestion de projet, mais aussi dans les interactions humaines. Ça m'a toujours intéressée, comment amener plus d'agilité au sein d'une équipe pour que justement les interactions soient plus fluides. J'ai aussi fait pas mal de formations dans la communication web et depuis des années, je suis très intéressée par les modes de transmission plus par le corps, les modes de transmission ou les modes de pédagogie un petit peu innovantes. Et puis, donc ça, je l'ai fait pendant 6 à 8 ans. Et il y a 4 ans, je suis partie à San Francisco, initialement pour un projet web avec des entrepreneurs. Et j'ai découvert là-bas une approche de pleine conscience et de transmission par le corps, basée sur à la fois des techniques de méditation et aussi une technique de méditation orgasmique, qui est une pratique de pleine conscience à deux, que j'enseigne aujourd'hui parce que j'ai une activité de développement personnel. Et en parallèle, j'interviens dans le monde des organisations pour dénouer des tensions en équipe, beaucoup par des ateliers basés sur des approches de communication où on apprend à poser des bonnes questions au bon moment en étant à l'écoute de son corps, donc à sortir un petit peu de sa tête et être vraiment voilà, d'écouter son corps pour porter de l'attention aux autres. Et du coup, avancer en équipe en étant plus dans l'attention et moins dans la pression. Il y a beaucoup de pression dans le monde des organisations. Donc c'est ça qui me fascine aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut, dans le monde des organisations, apporter plus de bien-être tout en restant efficace ?
Si on fait une recherche sur toi, on verra que ces techniques qui ont changé ta vie et que tu as apprises à San Francisco, c'est notamment la méditation orgasmique. Ça touche à vraiment l'intimité. Comment tu concilies les deux, sachant que tu interviens en entreprise, tu n'as pas cette frilosité que peut générer cette activité auprès des entreprises ?
Eh bien, initialement, forcément, je me cachais un petit peu derrière. Enfin, ce n'est pas que je me cachais, je séparais mes deux activités. Et plus j'avance, plus mes deux activités, elles sont tout à fait cohérentes. D'une, parce que lorsque l'on travaille sur son intimité, sur sa sexualité, et qu'on ouvre de nouvelles choses, ou qu'on débloque des résistances que l'on peut avoir sur ces sujets qui sont toujours tabous, finalement, on débloque aussi plein de choses dans son quotidien, et notamment dans son quotidien professionnel, puisque je dis souvent, on est la même personne. On met des casquettes différentes dans le professionnel ou le personnel, ou on joue des personnages différents, mais au fond, on est la même personne. Donc, quand on débloque les choses corporelles ou qui touchent à l'intimité, forcément, dans notre quotidien professionnel, on est aussi mieux, on se sent mieux, on est plus connecté à ses collègues, à son équipe. Et donc, il y a plus de fluidité dans les équipes au quotidien. Ce que je dis souvent pour résumer ça, c'est que le corps ne ment pas alors que la tête peut mentir. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv que j'approche à la fois dans mon activité de développement personnel ou justement par des techniques de pleine conscience comme la méditation orgasmique, on va mieux comprendre son corps. Et de mieux comprendre son corps, ça permet justement de fonctionner au quotidien en l'écoutant et du comprenant des décisions plus basées sur ses intuitions et son ressenti et moins le rationnel.
Mais sans aller, par exemple, quand tu vas en entreprise, sans aller dans cette approche très personnelle qu'est la méditation orgasmique, t'amènes des choses, des compréhensions de ce domaine sur des choses plus soft en entreprise? Comment tu l'intègres à ta pratique?
Exactement. En fait, la méditation orgasmique, c'est effectivement une pratique qui est centrale à toute une philosophie de pleine conscience, donc de meilleure compréhension de son corps et dans la relation à deux. Et en fait, dans cette philosophie, il y a quatre grands principes qui sont l'attention, la connexion, la simplicité et le désir. Et en fait, ces grands principes, je les approche aussi dans le monde des organisations, beaucoup par des jeux de communication, et bien pour apprendre justement à porter plus d'attention à ses collègues, pour se sentir plus en connexion au sein de son équipe, pour revenir des fois à de la simplicité et du coup dénouer plus facilement des tensions, et pour mieux comprendre quels sont les désirs de chacun au sein d'une équipe. Et qu'est-ce qui fait voilà, qu'une équipe peut avancer ensemble en ayant une vision commune à partir du moment où on dénoue les tensions qui sont souvent liées à des résistances ou des peurs que l'on a. Et les peurs dissimulent nos désirs. Donc, quand on va travailler sur ces peurs ou ces résistances, eh ben, on comprend les désirs ou les envies qui sont dissimulés dessous. Et du coup, bah, c'est plus facile d'avancer ensemble quand chacun comprend les désirs des autres.
Alors, comment tu identifies ces peurs qui peuvent te permettre d'aller fouiller et trouver le désir qu'il y a derrière?
Ouais, c'est une très bonne question. Bah, en fait, les peurs, c'est assez. On a tous les mêmes peurs, finalement. C'est assez basique. Il y a une dizaine de grandes peurs. C'est souvent la peur du jugement, la peur de ne pas être vu pour ce pour quoi on est bon, la peur du rejet. Donc, finalement, quand on s'y penche, on se rend compte que on a tous un petit peu les mêmes besoins. On a tous la même envie d'être vu pour ce pour qui on est vraiment et d'aimer, d'être aimé et de pouvoir avancer ensemble. Et quand on travaille dessus, on se rend compte que bah, y a des peurs qui arrivent liées à des environnements très spécifiques ou des événements très spécifiques dans son quotidien. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est d'en prendre conscience, de dire, tiens, là, avec ce qui se passe en équipe ou cette réunion où j'ai pas réussi à trouver ma place, j'ai cette peur du rejet qui remonte. Bon, eh ben, tiens, la peur du rejet, assieds-toi, on va discuter. Donc ça, c'est les peurs, voilà, liées à un environnement spécifique. Ensuite, il y a les peurs qui sont liées à des schémas que l'on a, qui sont souvent des schémas de notre éducation, des fois des schémas liés à la religion et puis à des conditionnements de société, donc sur lesquels on peut travailler pour pas forcément supprimer ces schémas, mais en tout cas savoir comment en sortir plus facilement lorsque l'on est face à ces schémas ou ces conditionnements que l'on a et qu'on ne se sent pas bien lorsque bah, ils sont face à nous.
Au moins avoir le choix, quoi, de les voir et d'avoir le choix.
Exactement. Et donc, c'est là que de vraiment travailler sur la conscience. Donc, prendre conscience de ces schémas et de ces peurs. Puis ensuite, il y a les peurs qui nous motivent. Il y a celles qui, c'est l'adrénaline, c'est celles qui nous donnent justement l'impulsion et l'envie d'eux. Et c'est celles vraiment qui justement dissimulent ces désirs forts que l'on a. Et elles nous font avancer. Donc, on n'a pas forcément envie de les supprimer, ces peurs. On a envie juste de pouvoir les recevoir pleinement et de se dire, waouh, cette peur-là, bah, c'est celle qui vraiment me guide vers ce que je veux pleinement.
J'ai deux questions, là, c'est terrible quand j'ai plusieurs questions parce que ça va dans tous les sens. T'as dit le mot besoin, le mot désir. Est-ce que derrière un désir, il y a forcément un besoin?
Souvent, oui. Alors, en fait, quand je dis besoin, c'est-à-dire qu'un désir, donc c'est une envie, c'est quelque chose que l'on peut exprimer à un moment T, et une envie ou un désir change. Un désir change tout le temps, il bouge. Donc, voilà, y a tout. Les besoins sont reliés à des désirs, mais des désirs sont pas forcément, n'aboutissent pas forcément à un besoin qu'il faut absolument assouvir tout de suite, parce que ça bouge, parce que c'est mouvant le désir.
D'accord. Je sais que on a un sujet de départ et que, mais je ne peux pas m'empêcher de creuser ce que tu es en train de dire, qui m'intéresse beaucoup. Tu vas dans une équipe, exprimer ses peurs, justement, c'est une peur. Donc, exprimer une peur, ça doit quand même être compliqué. Comment on s'y prend pour qu'au sein d'une équipe, chacun puisse exprimer ses peurs pour justement aller creuser ça et découvrir les désirs et les besoins qu'il y a derrière?
Ouais, c'est une très très bonne question. Alors effectivement, ouais, c'est une approche qui n'est pas évidente, surtout au sein d'une organisation, quand on fonctionne avec une équipe, vraiment. Donc, quand on fonctionne avec des personnes qui sont indépendantes, qui viennent, qui ne se connaissent pas, ben, quelque part, de poser un cadre de bienveillance et de partage, c'est plus facile qu'une équipe vraiment qui travaille au quotidien ensemble, où des fois il y a des ressentiments, où il y a des, voilà, où il y a justement des schémas qui se sont installés, ou une communication qui n'est pas fluide. Donc c'est toujours revenir au ressenti. Je ramène toujours la personne à son ressenti corporel. Donc, c'est amener chaque personne à exprimer des sensations. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, quand on vient au corps, personne ne peut contredire ce que l'on ressent parce que le corps ne ment pas. Donc, de revenir à un vocabulaire de sensations, c'est pour moi le seul moyen de vraiment s'accorder sur ce qui se passe chez une personne ou au sein d'un groupe, versus mettre des interprétations sur ces sensations et souvent, du coup, tomber dans de la victimisation. Donc, revenir à ces sensations, c'est vraiment un moyen d'associer, voilà, il y a une peur. Qu'est-ce que cette peur, elle me fait ? Ah, bah, je ressens que j'ai le cœur qui bat plus vite, ou j'ai la gorge sèche, ou j'ai les mains moites. Et à partir de là, eh bien, on peut avancer sur OK. Alors, qu'est-ce qui ferait que, voilà, tu te sens plus ouverte corporellement, que tu ressentes l'impulsion d'avancer, de vouloir à nouveau travailler avec telle personne de ton équipe. Voilà. Donc, comment à partir de ressentis qui sont posés, on peut aller réconcilier ensuite deux personnes ou une équipe. Et donc, si je rentre de manière un peu plus concrète, la manière dont je le fais moi, c'est en amenant des jeux de communication. Donc, je pose un cadre bienveillant de partage et j'approche cette expression des ressentis par des jeux de communication. Et donc, quand on est dans une approche de jeu, il y a un certain lâcher-prise qui fait qu'on va plus facilement aussi s'exprimer pleinement. Et exprimer vraiment ce que l'on a à dire. Exactement. Exactement. Où on rationalise tout de suite. L'émotion est souvent inconfortable et on ne sait pas forcément quoi en faire ou comment la recevoir pleinement et puis justement mettre des mots sur les sensations. Donc ça, c'est effectivement tout un travail de développer un vocabulaire de sensations déjà. On sait dire assez facilement qu'on a chaud, qu'on a froid, qu'on a mal, qu'on a pas mal. Mais tout le vocabulaire entre deux, il n'est pas forcément développé dans notre culture. Donc, il y a effectivement toute cette approche de développer un vocabulaire, une sémantique qui fait que l'on s'accorde plus facilement sur là où on est chacun. Et accepter effectivement que c'est OK d'avoir des émotions qui remontent, c'est OK de les accepter, d'en prendre conscience et puis de les partager.
C'est drôle parce que j'ai la même constatation quand je vais travailler sur les talents, c'est qu'on a un vocabulaire très très limité pour reconnaître nos talents. Et c'est drôle. Pour en revenir au sujet de comment dénouer les tensions en équipe, dans la description de ce thème, tu parlais de poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu entendais par là ?
Alors oui, à poser les bonnes questions. Ce que j'entends par là, c'est que le constat que je fais souvent, c'est que la plupart des personnes dans le monde des organisations, la critique qu'elles font de leur manager ou ce qu'elles aimeraient changer, c'est de sentir qu'il y a plus d'attention portée sur ce qu'elles font, ou de se sentir plus valorisée, ou qu'il y ait moins de pression portée sur leur travail. Et donc pour moi, être dans un apprentissage où on porte plus d'attention à l'autre ou à une équipe, et donc moins de pression, c'est apprendre à à être curieux de l'autre, pour être curieux des personnes de son équipe. Et être curieux, c'est apprendre à poser des bonnes questions au bon moment. Et ça, eh ben, c'est pareil, c'est pas forcément simple, parce que poser des bonnes questions, enfin poser des questions déjà, c'est se mettre dans une position qui est vulnérable, parce que ça veut dire que on est en accord sur n'importe quelle réponse, à n'importe quel niveau d'intensité. Et donc on est
Tu veux dire qu'il faut être prêt à recevoir la réponse, c'est ça que...
Exactement.
D'accord. Peu importe la réponse, quoi.
Peu importe la réponse.
D'accord.
Exactement. Et beaucoup de gens ne posent pas de questions, souvent par cette résistance de,
bah, parce de ne qu'ils pas ne veulent savoir. Pas savoir.
Exactement, exactement. Ou alors, on a la fâcheuse tendance de, en fonction de la réponse, si elle ne nous plaît pas et que justement, il y a une réaction émotionnelle, plutôt que de recevoir cette réaction émotionnelle et justement d'être en conscience de ce qui se passe corporellement et de mettre des mots sur des sensations, et bah, de réagir au contraire tout de suite et de contre-argumenter ou de renvoyer la balle sur l'autre en disant bah non, c'est pas de ma faute, c'est toi, etc. Et voilà, et c'est là qu'on tombe dans des schémas de tension en équipe, et c'est là qu'on tombe aussi dans des schémas de victimisation de l'humain versus recevoir une réponse qui est confortable ou inconfortable, de voir qu'est-ce que ça nous fait corporellement, et au contraire apprendre à remercier ce que la personne nous exprime. Que ce soit un jugement positif ou négatif, parce que quel que soit le jugement, eh ben, ça nous apprend quelque chose sur nous.
Du coup, comment je sais quelles questions poser et à quel moment? Parce que là on parle de... donc si on pose des questions, d'être prêt à recevoir les réponses et surtout à pouvoir, ce qu'on a décrit avant, reconnaître l'émotion que ça génère en nous. Mais en amont, quelles questions je pose et quand?
Quelles questions je pose et quand? Eh bien, en fait, ça... C'est souvent lié à... Bon, souvent, lorsque j'anime des jeux de communication, on pose un sujet, une problématique. Donc, c'est souvent une problématique d'équipe. Et la plupart des problématiques d'équipe sont des problématiques liées à un manque de communication ou à un manque de connexion en équipe. Donc, c'est 80% des problèmes sont humains et non pas techniques ou logistiques. Donc... c'est à partir d'une problématique de relation humaine, de mettre par exemple une personne au centre de l'attention et de lui poser des questions par rapport à cette problématique. Mais au lieu de poser des questions où il y a déjà un jugement ou des questions où on va lui faire répondre par oui ou par non, eh bien, c'est apprendre à poser des questions qui sont ouvertes, où on amène justement la personne à s'exprimer sur ses ressentis. Et on lui crée un espace pour qu'elle puisse s'exprimer. Donc, admettons qu'elle s'exprime sur un manque de communication avec son manager. Plutôt que de lui poser une question de « mais qu'est-ce que tu penses de plutôt fonctionner par une réunion qui… »
Oui, il y a déjà la réponse dans la question.
Voilà, exactement, il y a déjà la réponse dans une question versus une question de…
Comment est-ce que tu ferais ?
Soit comment est-ce que tu ferais, mais même avant ça, comment est-ce que tu te sens lorsqu'il n'y a pas de communication dans une journée type au travail? Qu'est-ce qui se passe chez toi?
Ça veut dire que là, tu vas sur le terrain des émotions. Tu veux savoir ce que la personne ressent, c'est ça?
Exactement.
D'accord.
Parce qu'en allant sur le terrain du ressenti et des émotions, on comprend quelles sont les peurs ou les résistances. Et du coup, après, on peut aller creuser sur les envies et les désirs pour construire ou co-construire ensemble en équipe.
Mais ça, en fait, quand tu interviens, tu aides chacun. Parce que là, tu me dis ça, je me dis, ok, je pose la question, mais je ne vais pas savoir déceler quels sont les désirs dans la réponse. Forcément, ça demande un entraînement, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Et ça demande souvent de poser plus de questions ou d'aller creuser. Donc là, j'en parle dans une approche justement d'atelier où ce que je fais souvent, c'est que je mets une personne au centre de l'attention, il y a une problématique qui est posée et toutes les personnes du groupe peuvent poser toutes les questions souhaitées à n'importe quel niveau d'intensité à la personne qui est au centre de l'attention. cette personne qui est au centre de l'attention, elle a la liberté, comme dans la vie de tous les jours, de dire la vérité, mentir ou passer. Mais bien sûr, on l'invite à dire la vérité pour que, ben, justement, il y ait ce ressenti corporel et que le corps puisse parler. Et que les personnes du groupe osent poser vraiment les questions que tout le monde... ces questions qu'on a tous envie de poser haut et fort et qu'on garde souvent tout bas, alors que tout le monde a envie de les poser. Et voilà, et donc c'est pas forcément en soi confortable d'aller vers ça, mais c'est vraiment ce qui crée des connexions à un niveau d'intimité qui est plus fort. Et dès qu'on crée plus d'intimité au sein d'une équipe, bah on crée aussi plus de confiance. Et si on crée plus de confiance, bah on peut aller plus loin en équipe.
Du coup, ça apporte des vrais éclairages. Une fois que tu as fait cet exercice, par exemple, les gens posent des questions parce que ça crée cet inconfort, donc ça peut aussi ouvrir des peurs, non ? ou des... Si c'est trop déstabilisant, par exemple, comment on le gère ensuite ?
Ouais, c'est une très bonne question. Alors, moi, la manière dont je facilite ces événements, c'est que je dis vraiment à chacun, vous êtes libre de jouer au niveau d'intensité auquel vous avez envie de jouer. Donc, vous êtes aussi responsable de vous écouter et de voir jusqu'où vous êtes capable d'aller.
Donc on peut dire stop.
Exactement. En fait, donc, dans ces approches de jeu, chaque personne a la liberté de passer, de dire la vérité ou même de mentir si elle le souhaite. Bien sûr, ça ne fait pas avancer de mentir. Mais en tout cas, de dire la vérité ou de passer. Et puis, les personnes qui posent les questions peuvent aussi dire merci à n'importe quel moment de la réponse lorsqu'elles ont eu suffisamment d'informations de la réponse. Et ça, c'est un moyen aussi, lorsqu'on pose des questions, d'apprendre à ressentir le moment où la personne est vraiment... la personne qui répond est vraiment dans ses sensations versus elle tombe dans une approche qui est plus de victimisation. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que la victimisation, c'est souvent une histoire qu'on se crée, qu'on met par-dessus des sensations ou du ressenti.
Juste pour comprendre cette histoire de victimisation, là par exemple, la personne, on lui pose des questions et quoi, elle se sent attaquée ou c'est ça la victimisation ? Qu'est-ce que tu entends par là ?
Par victimisation, j'entends lorsque, au lieu d'accepter qu'il y a des choses à travailler chez soi ou qu'il y a des émotions qui remontent, bah d'accuser l'autre ou d'accuser le manager ou d'accuser... Et voilà.
C'est marrant parce que tu dis victime, mais la victime accuse.
La victime accuse, c'est vrai. Intéressant.
Ouais, d'accord. Mm-hmm.
Voilà, dans
victimisation. C'est toujours cet effet miroir.
Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est un terme que j'utilise en fait couramment, sans forcément me poser plus de questions. C'est intéressant que tu notes ça. Mais ouais, quand je dis se victimiser, ça veut dire ne pas forcément prendre la responsabilité de ce qui se passe chez soi. Et des fois, c'est pas forcément conscient, c'est que justement, on a peur d'exprimer ce qui se passe, et du coup, c'est plus facile de repousser. Le problème chez l'autre, quoi.
Ça m'a l'air très intéressant ce que tu fais, mais j'ai l'impression que on est vraiment dans l'ordre de l'émotionnel, et du coup, faire ces exercices sans être accompagné, est-ce que c'est pas compliqué ? Parce qu'on risque d'ouvrir la boîte de Pandore, je sais pas comment dire, mais...
Tout à fait. C'est là que c'est très important de le faire dans un cadre d'atelier avec un facilitateur qui est neutre, qui est détaché de l'équipe, qui est détaché de toute interaction au quotidien avec l'équipe, où il y a vraiment un cadre bienveillant qui est posé avec des règles de communication. Moi, j'invite par exemple toute personne à n'importe quel moment d'un atelier de partager une couleur. Donc, il y a trois couleurs, vert, jaune et rouge. Et les couleurs, pour moi, c'est un indicateur pour me permettre de savoir où en est la personne ou le groupe en termes de ressenti émotionnel. Sachant que moi, mon rôle en tant que facilitatrice, ce n'est pas de laisser le groupe dans le vert, mais ce n'est pas de les amener dans le rouge non plus. Donc, c'est tout mon travail de juste les amener à la limite de leur zone de confort, pour qu'il y ait des choses qui bougent, qui avancent, mais c'est pas de les amener dans une approche émotionnelle de non-retour où la personne va être dépassée par ses émotions et elle va plus savoir comment, comment fonctionner le reste de la journée. Elle va se sentir dans une situation vulnérable face à des collègues que personne ne veut vivre en soi.
Oui, et puis de porter ça pas que le jour même, mais sur des semaines ou des mois, bien sûr, parce que ce sont nos collègues quand même qui sont là. Donc on est en quelque sorte en danger aussi. Ouais, c'est très subtil. On a largement dépassé notre temps imparti. On enchaîne direct avec la première question qui est: quelle est la meilleure erreur que tu aies faite dans ta carrière et quelles leçons as-tu tirées? Je dis meilleure erreur parce que quand je pose cette question, on me dit « Ah oui, mais il n'y a pas d'échec. » Oui, je le sais, c'est pour ça que je pose la question. Et quelqu'un que j'ai interviewé m'a dit « Oui, ma meilleure erreur. » Et j'ai trouvé que c'était une très bonne formulation. Donc, est-ce que tu as eu un échec dans ta vie qui t'a appris et qu'est-ce que tu en as appris?
Oui. Moi, je dirais que ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas forcément m'accorder avec des associés sur notre définition du succès, que ce soit à l'échelle d'un projet,
intéressant.
Ouais, l'échelle d'un projet ou d'une entreprise créée ensemble. Et parce que justement, c'est très intéressant, on a tous des visions différentes, on perçoit tous les choses différentes, on a tous des désirs différents, et en plus des désirs qui évoluent parfois. Mais en fait, cette question, pour moi, elle est primordiale aujourd'hui. Il y a des gens pour qui le succès, c'est gagner de l'argent. Et quelque part, c'est la voie la plus facile, parce que moi, c'est simple. Il y a des gens pour qui le succès, c'est être valorisé pour ce qu'ils font, qu'ils développent. Il y a des gens pour qui le succès, un petit peu comme moi, c'est d'avancer plus vite en équipe, d'aller plus loin et de voir qu'est-ce qui est possible dans les relations humaines pour pouvoir co-créer et en co-créer avec de la fluidité. Donc ouais, je pense que c'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment eu des désaccords ou des projets qui n'ont pas forcément abouti comme je souhaitais parce qu'on n'était pas en accord sur notre définition du succès.
Excellent, merci beaucoup. Je passe à la deuxième question. Quelle technique ou outil t'as le plus fait avancer personnellement ou professionnellement ?
Ah, eh bien ça, apprendre à...
Je sais que t'en as exploré beaucoup, donc ça doit être difficile.
Ouais, à la fois quand même les techniques, mes techniques corporelles. Moi, j'ai vraiment un fonctionnement au quotidien où dès que j'ai des techniques corporelles de danse, de méditation ou de méditation orgasmique, je suis beaucoup plus dans mes intuitions et beaucoup plus à l'écoute, mais dans une écoute très fine de ce qui se passe autour de moi dans des interactions humaines. Alors que quand je ne suis pas justement moi-même dans mon corps, ben, je suis aussi plus fermée, je m'isole plus facilement. Donc voilà, c'est vraiment moi mes pratiques corporelles.
Bon, ok, t'allais dans le corps. Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Ben, pour moi, c'est la curiosité. Pour moi, c'est la curiosité parce que c'est vraiment ce qui permet de porter de l'attention, mais vraiment une attention qualitative et pas conditionnée. Et quand on est curieux et justement à l'écoute de son corps, bah, on sait poser des questions à ses collaborateurs et se rappeler chaque jour que l'on perçoit les choses différemment. Et que du coup, c'est important de toujours questionner les autres et d'être curieux de ce que l'autre pense ou perçoit.
Très bien, très bien. Maintenant, je passe à un livre que tu conseillerais à la lecture, qui t'a marqué.
Autour du management.
Alors, oui et non, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tu peux lire un bon roman et que tu te dis, mais oui, ça m'éclaire sur comment travailler en équipe ou comment être un bon leader, je sais pas, peu importe, mais... Donc, j'ai une vision large de ce que pourrait être ce livre,
oui.
Mais c'est vrai que s'il peut nous éclairer sur notre relation au travail, ce serait pas mal.
Alors, moi, bizarrement, je lis très peu de bouquins, enfin bizarrement, je sais pas, non, mais je lis très peu de bouquins sur tout ce qui est technique de management ou technique de travail en équipe. Mais par contre, j'adore tout ce qui est autobiographie, parce que j'adore, en fait, j'adore... lire les parcours d'entrepreneurs, parcours de managers ou des parcours de scientifiques et de voir justement quelles ont été ces petites recettes qu'ils ont eues au cours de leur vie qui ont fait que ils ont réussi ou qu'ils sont allés, qu'ils ont suivi vraiment leurs rêves, leurs désirs. Et puis je m'intéresse beaucoup aux techniques d'improvisation corporelle et théâtrale. Et là, je suis en train de relire une bible de l'improvisation pour moi qui est Improv for Storytellers, qui est un bouquin de Keith Johnson, qui est un bouquin en anglais, mais qui, à chaque fois que je le parcours, m'inspire énormément parce que l'impro, c'est la vie aussi. C'est les grandes approches de l'impro théâtrale. C'est ça, c'est être à l'écoute de son corps, c'est accepter de recevoir tout ce qui vient à nous sans forcément juger, puis de construire à partir de ça.
C'est marrant parce que j'étais dans les Vosges, là, je suis allée à un match d'improvisation. Cette semaine, donc j'intervenais dans une société et en parallèle de la Turbine à Bonheur, il y avait une société d'impro. Et c'est vrai qu'ils m'ont rappelé que, en fait, en impro, tu dois accepter ce que l'autre... C'est-à-dire que tu dois être en écoute et accepter ce que l'autre amène. Parce que si tu te mets en résistance avec, en fait, le jeu d'impro ne se fait pas.
Exactement.
Et j'ai l'impression que dans l'improvisation, il y a énormément justement d'exercices, là quand il se chauffe, quand il s'échauffe, d'exercices de communication.
Tout à fait.
Toi, tu as fait de l'improvisation ?
Oui, j'ai fait beaucoup d'improvisation à Paris pendant des années.
Je vais chercher un club à Lorient. Oui, je vais en lancer un à Port-Louis, mais ça m'intrigue beaucoup parce que ça revient beaucoup en ce moment, l'improvisation à droite, à gauche. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses à faire dans ce domaine. Merci beaucoup pour ce livre, du coup, qui m'intéresse hautement personnellement. Et on va finir avec une citation qui t'inspire.
Eh bien, c'est celle que j'ai en signature d'email, je mets « Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Je reste sur cette citation que j'aime.
Ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment... Ça fait écho à ton interview, c'est-à-dire ça fait écho à « Derrière la peur, il y a un désir, exprimer ses peurs ». Donc en fait, par rapport à ce dont on a parlé en première partie de l'émission, ce qui est marrant, c'est que on a tout intérêt, en fin de compte, à exprimer ses peurs. On pourrait voir, en tout cas moi ce que j'ai perçu tout à l'heure, c'est que peut-être ouvrir la boîte de Pandore des peurs, ça fait peur. Mais qu'en fin de compte, il y a un trésor à exprimer ses peurs et c'est de découvrir ses désirs profonds.
Exactement, exactement.
Donc ta citation vient conclure parfaitement cet entretien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Aurélie, sur le net ? Est-ce que tu as un site internet ?
J'ai un site internet qui s'appelle turn-on.fr, donc turn-on.fr.
D'accord. Et là-dessus, on retrouve tous tes profils, réseaux sociaux et compagnie,
Exactement.
Je suppose. Très bien. Je voudrais dire un grand merci,
merci à toi.
Aurélie.
Merci
parce que tu sais, c'est une approche assez originale et surtout la combinaison de tes deux profils est très très originale. Merci pour tout ce que tu apportes à la communication et à notre capacité à mieux communiquer. Je te souhaite une très belle fin de journée.
Merci.
Au revoir. Au revoir. J'espère que comme moi, vous avez apprécié cette conversation avec Aurélie Le Guillou. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite une merveilleuse semaine.